Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue en Suisse au Salon du Livre et de la Presse de Genève. Nous allons vous faire vivre cet événement avec le public qui est ici à Genève et avec de nombreux invités francophones présents ici en plateau. Le Québec est l'invité d'honneur de cette 31e édition de ce Salon de Genève. Place aux Québécois donc, avec Louis Hamelin qui vous emmènera dans la nature sauvage de l'Abitibi avec son nouveau roman. Vous entendrez aussi une performance culinaire avec les stars du roman populaire du Québec, Marie Laberge et Christine Brouillet. L'écrivain haïtien Louis-Philippe d'Alembert est en plateau avec nous pour un roman qui raconte l'histoire incroyable d'Haïti qui s'opposa au Troisième Reich pendant la guerre mondiale. Nous célébrerons un anniversaire aussi avec les 30 ans des éditions suisses La Joie de Lire. Francine Boucher et le dessinateur Tom Tirabosco sont sur ce stand de la RTS. Nous vous ferons découvrir aussi une revue, la revue Suisse 7, avec le son du monde de la semaine, cap sur le Mississippi, dans les derniers clubs de blues. Et puis dans un court instant, un invité surprise pour ouvrir l'émission, un auteur au succès mondial, très attendu à Genève.
La librairie francophone, au Salon du Livre et de la Presse de Genève, Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex, mais aussi avec nous, en Suisse, multiplex à travers la francophonie, et en plateau avec Jérémy Laniel du Canada, libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Je vais très bien.
Vous avez fait le déplacement, car vous faites partie de la délégation du Québec.
Énorme délégation, c'est l'un
Vous êtes partout.
Mais vraiment.
Non, mais vraiment. J'en ai en face, j'en ai à droite, j'en ai à gauche, il y en a partout.
Vous ne pouvez pas fuir les Québécois durant la semaine.
C'est clair. Et c'est tant mieux. Bonjour Laura Sanchez.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire, vous, ici à Genève,
hein,
pas
oui.
trop dépaysé, dans la librairie du Boulevard. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour représenter la France. Il y a Grégoire Courtois qui est en duplex de sa belle ville d'Auxerre, en Bourgogne. Bonjour Grégoire.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Bonjour, vous dirigez la librairie Oblique. Et en Belgique, on retrouve Annick Dor depuis nos studios de Bruxelles. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel, bonjour
Vous êtes
à
toujours
tous.
Libraire à la librairie de la Mazrine, à la Hulpe.
Oui, voilà.
Bon, bah, tout va bien, oui. Nickel. Merci d'être avec nous tout au long de l'émission, tous les quatre. Bonjour Marc Lévy.
Bonjour.
Prenez un micro, je vous en prie. Vous êtes l'invité vedette de ce salon, très attendu ici par les organisateurs et par le public. Vous êtes notre invité surprise. Merci d'avoir joué le jeu avec nous. La librairie francophone, vous le savez, est ouverte à toutes les cultures, à tous les styles littéraires. Votre nouveau roman, La dernière des Stanfield, vient de paraître. Vous avez un succès considérable depuis Et si c'était vrai, paru en 2000. Vous avez vendu plus de 40 millions de livres dans le monde. Vous enseignez beaucoup, je crois, en librairie. Vous enseignez aussi sur les salons. Avez-vous une histoire, une anecdote personnelle, justement, par rapport à une dédicace ?
Pas du tout.
On vous a pas prévenu, non ?
Pardon, je suis désolé, j'aurais aimé vous donner un...
Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème.
Non, si, je peux vous dire un grand souvenir d'un salon du livre à Montréal,
ouais.
avec un ami très cher qui malheureusement n'est plus, qui était Guy Corneau. Et Guy et moi, enfin, on était très amis. C'était mes tout débuts. Je venais pour mon premier livre. Guy était extrêmement connu au Québec. Et on était habillés de la même façon. Et on avait un t-shirt noir et un pantalon noir. Et profitant que je me sois éloigné du stand pour aller boire un verre d'eau, je ne sais quoi, Guy s'est mis à ma place et il a signé pour moi pendant un quart d'heure. Et voilà.
Et ben vous voyez, parfait.
Et c'est peut-être ce qui a été à l'origine de cette confusion qui a fait que pendant très longtemps, au Québec, on disait que j'étais Québécois. Bien, pas du tout, je crois que c'était à Guy que je devais ça. Voilà.
Alors justement, dans votre nouveau livre, La dernière des Stanfield, votre 18e roman, il y a un Québécois. Il s'appelle George Harrison, il est ébéniste. Il y a Eleanor Rigby aussi, qui est journaliste londonienne. Ils vont recevoir tous les deux une lettre anonyme très étrange autour d'un secret de famille. Et leur enquête va mener comme ça le lecteur en France, au Québec, en Angleterre et aux USA. Vos romans sont toujours un voyage à travers le monde. C'est fidèle à votre vie, ça, parce que vous voyagez vous-même tout le temps.
Oui, oui, mais c'est pas pour cette fidélité-là. C'est parce que j'adore ça. Enfin, j'aime, en tant que lecteur, que le livre soit une invitation au voyage sous d'ailleurs beaucoup de formes. Mm-hmm. Par exemple, dans ce roman, c'est un roman où les personnages principaux sont des femmes. Et ce qui m'intéressait, c'était de raconter sur trois époques différentes des destins de femmes qui, chacune dans leur époque, se battent pour leur liberté de femme. et dont tous les destins sont liés par un fait générateur qui est le fil rouge de l'histoire.
Ouais. Pourquoi le Québec cette fois ? Pourquoi vous avez intégré un personnage québécois ? Pourquoi on part au Québec avec vous ? À part pour venir au Salon du Livre de Genève qui a invité le Québec.
Ça me gêne de vous répondre, je suis cerclé, entouré par des Québécois.
Justement, c'est pour ça que ça fait plaisir.
Eh bien, parce que c'est un endroit du monde que j'aime énormément, que j'ai eu la chance de découvrir il y a très 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 longtemps. Et dans un de mes romans, il y avait déjà une partie qui se passait à Montréal, parce que j'ai beaucoup d'amis à Montréal et au Québec. Je m'étais fait un pari qui était de créer un personnage qui aurait des expressions québécoises et qu'un lecteur québécois ne se rendrait pas compte que je les ai mises.
Ouais. Vous avez joué, quoi.
Non, et puis j'avais très envie de mettre dans mon roman cette région des Cantons de l'Est que j'aime beaucoup, où j'ai écrit le début d'un de mes romans pendant que ma femme attendait notre fils. Et voilà, c'est un attachement... Maintenant, je suis cerclé de Québécois, ils vont me traiter de faillot, ils vont dire que je fais ça parce que...
Non, pas du tout, parce que quand on lit le livre, effectivement...
J'avais écrit le livre avant de savoir que je pouvais aller aujourd'hui.
Portez-vous d'une certaine façon, Marc Lévy, une image de la France, sachant que vous êtes lu comme ça un peu partout dans le monde. Est-ce que cela vous donne une responsabilité par rapport à votre pays ?
Non, je crois pas.
Non ? Vous en moquez ? Peu importe ?
Non, c'est pas... Je m'en moque pas parce que ce serait un manque de respect, mais... Le fait d'avoir la chance, enfin, j'ai une chance énorme d'avoir des lecteurs, mais j'ai pas inventé un vaccin, vous voyez. Il faut garder, vous voyez, toute chose dans sa. Enfin, dans,
toute proportion gardée.
Voilà, merci.
C'est ça.
Je perdais mes mots.
Jérémy Lagniel est juste à côté de vous, il est québécois aussi, ça tombe bien. Alors, justement, Jérémy, comment Marc Lévy est-il perçu au Québec et dans votre librairie ?
Mais chez nous, pour nos lecteurs de Marc Lévy, hein, les nouvelles parutions, ça se présente vraiment comme des rendez-vous. Les gens se vautrent dans ces livres, un peu comme des pantoufles confortables. Et je peux vraiment pas leur en vouloir parce que moi aussi, j'ai ce même rapport avec certains auteurs. Et vous savez, souvent, les libraires travaillent pour des auteurs. Eh bien, ici, c'est complètement le contraire. Marc Lévy travaille pour nous. Ses livres vendent complètement tout seuls et c'est fabuleux de cette façon.
Alors, ce qui doit plaire, Marc Lévy, effectivement, c'est que dans tous vos livres, vous vous attachez d'une manière ou d'une autre à l'humanité des personnages. Je sais que vous êtes fan de Romain Gary, de Saint-Exupéry, de Christian Bobin aussi, que l'on salue, le poète. Ils influencent votre façon d'envisager vos histoires, même si vous avez une autre forme d'écriture, on va dire une écriture plus minimaliste, plus grand public, mais vous êtes influencé par ces auteurs-là ?
Oui, bien entendu, mais comme j'ai été très influencé par les auteurs populaires du 19e siècle, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est le partage qu'elle offre. On vit, je trouve, une époque où les gens débattent de moins en moins et se battent de plus en plus. Et où finalement, chacun d'entre nous écoute ce qu'il a envie d'entendre. Je dirais, on se nourrit d'informations, mais on se nourrit de moins en moins de compréhension. Mmh. Chaque métier joue son rôle dans notre société et celui de l'auteur, je trouve, est dans la période que nous vivons, c'est plus d'écrire sur les autres que d'écrire sur lui-même. Mmh. Je trouve qu'il y a la chose la plus douce en littérature, ça n'est pas de prétendre qu'on détient une réponse, hein. C'est de donner le moyen de partager une question avec d'autres.
Voilà, merci beaucoup Marc Lévy. Vous pouvez l'applaudir. Ici Marc Lévy dans la librairie francophone pour la première fois. Merci pour cette petite escale. Marc, on vous libère car vous avez énormément de choses à faire ici. Bon salon.
Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup en tout cas.
Votre nouveau roman, La dernière des Stanfield, est paru chez Robert Laffont avec Versilio. Merci Marc, à bientôt. Et bonjour Louis Hamelin.
Bonjour.
Vous arrivez de Montréal, vous êtes l'un des auteurs les plus en vue en ce moment. Ici à Genève, vous présentez votre nouveau roman Autour d'Eva aux éditions Boréal. C'est une grande fresque qui décrit très bien le Québec rural, la nature sauvage de l'Abitibi. C'est très imagé comme récit, c'est un plaidoyer pour l'écologie ce roman ?
Pas vraiment, pas directement. C'est-à-dire que la nature, l'environnement sont très présents. On n'écrit pas un roman pour défendre une cause, en fait. On veut d'abord raconter une bonne histoire, ouais. C'est ce que je me suis efforcé de faire.
Et pourtant, il y a une cause, hein?
Ouais, ben ouais. Oui. Mais la nature se défend presque toute seule dans ce livre-là.
Ouais.
Il y a une fable politique sur le mouvement environnemental, avec le petit groupe écologiste de citoyens que j'ai créé.
Alors, il y a des promoteurs immobiliers, en fait,
ouais.
Qui ont mis la main sur 2500 hectares. Et ils veulent construire un complexe de luxe apaisant parce que c'est le paradis du silence. Mmh. Et le silence, c'est de l'or. Alors du coup, il va y avoir une mobilisation parce qu'évidemment, ceux qui habitent dans ce silence, ils n'ont pas envie d'être embêtés. En tout cas, ils n'ont pas envie qu'on utilise leurs terres pour du business.
Oui. Bien, le silence, moi, je considère que c'est une des ressources naturelles les plus menacées actuellement. Ça devient de plus en plus rare. Et je suis convaincu que, oui, dans un proche avenir, les gens vont être prêts à payer pour acheter du silence. Du silence, je ne sais pas sous quelle forme, en boîte. Ou, mais alors, il y a ce problème-là dans le, qui est exposé dans le livre. Oui.
Oui. Christine Bourrier, vous sollicite.
Oui. Parce que je suis prête à acheter, payer très cher pour du silence.
C'est vrai? Ah oui.
Absolument, oui, mais oui. Son roman est formidable. Moi, je l'ai dévoré. Ça a été rapide. Les descriptions de la nature sont hallucinantes et on sent le silence dans la nature.
Ah, complètement, oui.
Mais est-ce que ça va durer? Voilà la question.
Vous êtes une très bonne chroniqueuse, Christine Bourrier.
Ça m'arrive.
On va vous engager.
Voilà.
Oui, pour la télévision au Québec, je sais. On va écouter la BO du roman Louis Hamelin. On va se mettre dans l'ambiance de votre livre, comme l'a très bien décrit Christine Bourrier, avec Richard Desjardins, qui est un chanteur québécois, oui. Et Beethoven. Alors, on a fait un mix des deux, vous allez voir, c'est très étonnant, mais ça fonctionne, et c'est ça qui illustre votre histoire.
Okay. C'est quoi l'affaire des cabrongeurs? Un casino et une autoroute. On fera aussi bien de changer de sujet, sinon ces mégas n'ont pas tout. On vend pas le paradis terrestre, c'est au bon Dieu ce qui en reste. Tu as besoin d'un 5 étoiles quand t'en as 5 millions dans le ciel. Déménager mon lac sans déranger canon, c'est pas possible, pas qu'on quitte ce bord. S'il y a plus de petits mulots dans la boîte à bois, s'il y a plus de colibri dans mon whisky, moi, m'a pas là. Eh oui, c'est ça la vie.
Louis Hamelin, vous faites une drôle de tête. Ça marche, ça fonctionne. Oui.
Ouais.
Pourquoi vous avez choisi ces deux titres-là? Pourquoi Beethoven? Pourquoi Desjardins?
Ben, au départ, j'ai procédé comme Sergio Leone quand il était une fois dans l'Ouest. Il y avait une musique qui était associée à chaque personnage son quatuor de personnages. Et moi, j'avais choisi dans ma tête une musique qui était associée à chaque personnage, à chacun des quatre principaux personnages. Et donc, la musique de Dan Dubois, le cinéaste engagé, ben, c'est Beethoven, en fait. C'est la 7e de Beethoven. Bon, Desjardins, ça serait l'artiste d'Eva, je pense.
Eva, oui. Qui est une jeune femme qui tombe amoureuse de cet écologiste, de ce documentariste, hein, parce qu'il est très connu. Il vit là-bas, dans l'Abitibi, et ils se rencontrent. Elle est arrivée, finalement, un peu par hasard. Elle voulait faire une pause dans sa vie, donc elle est retournée sur les terres de son enfance. Et elle arrive au moment où il y a ce projet immobilier qui se met en place. Alors, il y a évidemment un front qui se met en forme avec, justement, ce documentariste. Il y a deux libraires qui ont lu votre roman, Louis Hamelin. On commence avec la France et Grégoire Courtois, qui n'est pas très content, Grégoire. Ça ne passe pas chez vous.
Oh, c'est pas que je sois pas content, mais disons que je suis vraiment passé à côté, moi, de ce roman. Hein. Alors, probablement, moi, je l'interprète comme... voilà, c'est surtout l'intrigue, en fait, hein, qui m'a paru un petit peu convenue, qui s'est allée un petit peu en longueur, et surtout sans vraiment dépasser les enjeux qu'on comprenait assez vite dès le début. Et deuxièmement, c'est le style aussi. Souvent, dans les dialogues, notamment, le style est très syncopé. Alors, ça cherche à se rapprocher de l'écriture cinématographique, mais ce qu'on gagne en tonus, d'après moi, on le perd en qualité littéraire, ce qui est très dommage, parce que ça a été dit en plateau tout à l'heure, il y a des magnifiques passages sur la nature, mais trop rares.
Très bien. Laura, pour la Suisse, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Eh bien non, ma foi, c'est bien comme ça, non?
Bah oui.
Oui, pour moi, c'est un roman assez épatant. Je trouve que dans un sens, votre livre est très québécois. Il y a la langue, les expressions, mais aussi les thématiques. On voyage dans l'histoire et la géographie du Québec à chaque page. Et c'est aussi un roman universel sur l'opposition entre la nature et les hommes. Et effectivement, je répète ce qui a été dit, mais ce que j'aimerais surtout relever, ce sont les passages sur la puissance de la nature qui sont vraiment formidables.
Exactement, on est vraiment dans cet univers-là, Louis Hamelin, on est vraiment, c'est comme au cinéma. Vous avez voulu faire un livre cinématographique très imagé comme ça?
Oui, peut-être, mais évidemment, on veut toujours éviter de se faire réduire à quelques clichés de style carte postale. Pour moi, l'expérience de la nature, c'est beaucoup plus fondamental, et j'ai essayé, entre autres, d'exprimer ça dans ce livre-là. C'est ce qui se rapproche le plus de l'expérience religieuse, pour moi, l'expérience de la totalité.
Une communion
des
avec
lois,
la nature.
Les lois de l'univers, tout ça. Ouais. Et donc, la dimension de la nature, ça ne se réduit pas au paysage, même si, oui, j'ai mis en scène et décrit des paysages assez fabuleux de nordicité, qui est un aspect essentiel du paysage québécois, évidemment.
Et alors, il y a ces promoteurs immobiliers qui vont dire que les attentats du 11 septembre ont redéfini les valeurs des Américains. Selon eux, les Américains voudraient désormais tranquillité, sécurité et lien avec la nature. Et donc, le Canada est un nouvel Eldorado pour eux.
Ouais.
Vous êtes d'accord avec vos personnages? Vous êtes d'accord avec ça?
Ben oui, en fait, le Canada, c'est un peu pour les États-Unis ce que la Finlande était à l'Union soviétique, là, c'est-à-dire que notre vie politique et économique est entièrement déterminée par le voisinage avec le géant américain. J'ai imaginé une espèce de roi nègre local qui veut favoriser un projet de développement avec des capitaux américains.
Ouais, finalement.
Je suis un peu critique de ce modèle de développement. Je pense que c'est assez clair là, dans le livre.
Ouais. Alors c'est vrai que dans ce livre, il y a pas mal de choses, non, pas mal d'érotisme, des histoires un peu sexuelles, oui, oui, oh, ceci, ouais. Je vous assure, ouais. Je les ai relevées, je vous montrerai les pages. Des courtes histoires aussi de prédation animale, la nature sauvage, l'instinct, je dirais même, un peu comme si vous démontriez que l'homme est un animal comme les autres dans ces contrées sauvages canadiennes.
Oui, ben moi, j'ai été biologiste avant de devenir écrivain, puis je suis un fervent partisan de ce qu'on appelle la sociobiologie, là, c'est-à-dire, je pense qu'il y a la plupart des comportements humains, si on note le vernis de culture qui s'est accumulé au fil des siècles, ça peut être amené à une impulsion biologique. J'espère que je suis pas trop brutal en exposant ça ici, là. Et donc, il y a, oui, cette idée de, en mettant en scène de la nature, je voulais aussi ramener l'humain à cette dimension fondamentale-là. Vous savez, on parle de le proverbial arbre qui tombe au milieu de la forêt quand personne n'est là. Cet événement-là n'existe pas. Mmh. Moi, j'ai essayé de faire exister, dans certains passages du livre, tous ces petits actes, ces petits drames, finalement, de prédation qui se passent à l'extérieur du monde humain, finalement.
Qui se déroulent dans la nature, à l'abri des regards.
Oui.
C'est-à-dire que le monde continue toujours. Même
absolument.
Si l'homme n'est pas là.
Et il va continuer même après
nous. Elle va continuer même après nous. Ah. Merci beaucoup, Louis Hamelin. Merci d'être venu dans cette émission ici au Salon du Livre de Genève. Vous pouvez l'applaudir. Louis
merci.
Hamelin.
Merci.
Ici même, votre nouveau roman Autour d'Eva est paru aux éditions Boréal. C'est un livre qui va vous faire voyager dans le nord-ouest du Québec au milieu des forêts et des lacs. À suivre, un petit moment culinaire avec deux célèbres québécoises très animées. Vous en avez entendu l'une d'elles. Et le nouveau roman de l'auteur haïtien Louis-Philippe d'Alembert. Avant cela, voici le nouveau titre de Véronique Sanson dans la librairie francophone. Et on revient ici, en Suisse, à Genève, avec le public.
Elles sont venues des montagnes, descendues des hauts plateaux, vers des châteaux en Espagne et des promesses d'eau. Épuisées de poussière, piétinant le destin. Quelques filles et leurs mères ont levé haut le poing, belles et solidaires, sans jamais reculer. Dansez, dansez, maman-là, c'est la vie qui danse. Dansez, dansez, maman-là, c'est la vie qui va. Dans ces moments-là, c'est la vie qui donne. Dans ces moments-là, une envie de vivre. Ça se calme pendant l'hiver, ça recommence en été, et toutes nos paroles en l'air sont bien vite oubliées. Là sans rien faire, c'est bon pour l'éternité. Cette vie j'en fais mon affaire, je ne pense qu'à l'aimer comme on aime un amour sans jamais s'arrêter. Dans ces moments-là, c'est la vie qui danse. Dans ces moments-là, c'est la vie qui va. Dans ces moments-là, c'est la vie qui donne. Dans ces moments-là, une envie de vivre bien au-dessus de moi. C'est comme ça que le monde changera.
ces moments-là, c'est la vie qui donne. Danser dans ces moments-là, une envie de vivre.
C'est le tout nouveau titre de Véronique Sanson. Ces moments-là sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires qui vous présentent leur coup de gueule et leur coup de cœur. Et on commence par un coup de gueule, et c'est en Belgique que ça se passe, Annick Dor.
Oui, alors moi c'est un coup de gueule, alors plutôt de lectrice que vraiment de libraire. Moi je sature des problèmes de concordance de temps qu'on retrouve dans un livre sur deux. Alors ouais. Je pense entre autres à cette confusion qu'on retrouve partout entre le conditionnel présent et le futur simple. Alors un conseil de libraire cette fois, aux auteurs et aux éditeurs, eh bien revoyez peut-être vos fondamentaux de conjugaison et achetez un bon Becherel.
Alors ils sont tous d'accord, Marie Laberge, prenez le micro.
Tellement choquant.
Ils sont tous d'accord. Louis-Philippe D'Alembert qui vient d'arriver aussi, tout le monde est d'accord. Bravo Annick, super coup de gueule. Laura Sanchez, ici sur ce plateau du Salon du Livre de Genève, un coup de cœur suisse, un brin canadien paraît-il.
Oui, c'est un coup de bluff.
Jérémy
Gindre est comme vous. Vous et moi, ici au Salon du Livre de Genève, il aime les grands espaces et les ciels immenses du Canada. Sauf qu'ici, il nous emmène dans les prairies du Saskatchewan. Dans ce roman de formation, nous accompagnons fasciné un jeune adolescent qui chasse les traces très ténues de la présence des Indiens ici bien avant lui. Économie de moyens, fraîcheur, minutie, venez fuguer avec Jérémy Gindre dans Pas d'éclair sans tonnerre, édité chez Zoé.
Parfait, merci Laura.
La librairie francophone, au Salon du Livre et de la Presse de Genève, Emmanuel Quérad.
En tant qu'ami du représentant dûment désigné de la province de Québec, je me suis permis de vous apporter ce magnifique petit panier cadeau. Vous avez une poutine, un CD de Céline et deux grosses cacanes de sirop d'érable.
Vous avez dit deux grosses cacanes de sirop d'érable?
Oui, pourquoi?
Nous avons découvert qu'une seule goutte de ce liquide extraordinaire permet de combler tous nos besoins énergétiques pendant 1 milliard d'années.
Alors, qu'est-ce que c'est, Marie Laberge?
Les têtes à claques?
Eh oui, c'est les têtes à claques, oh exactement. Un clin d'œil à présent.
Je ne l'ai jamais vu, celle-là.
Eh bien, moi non plus. On accueille deux auteurs à succès, donc vous les avez entendus, très connus au Québec. Elles sont à Genève, toutes les deux, dans le cadre de cette délégation québécoise. Le Québec, invité d'honneur du salon. Bonjour donc, Marie Laberge.
Bonjour Emmanuel.
On est ravis de vous accueillir. Vous êtes dramaturge. Christine Brouillet, pour vous.
J'ai une doublure.
Oui, c'est ça. On vous a déjà entendu, Christine. Mais je ne vous ai pas dit bonjour peut-être. Bonjour Christine.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes la reine du roman policier québécois. Et Marie Laberge, vous êtes dramaturge, romancière à succès. On vous connaît bien à travers la francophonie parce que vous publiez partout dans le monde francophone. Vous animez ici un atelier culinaire autour du sirop d'érable. Hein. Voilà pourquoi les têtes à claques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'atelier de sirop d'érable au Salon du Livre de Genève?
Il y a une cuisine au Salon du Livre de Genève,
oui.
Une jolie cuisine.
Oui, je sais.
Alors, ils nous ont dit, qu'est-ce que vous nous feriez pour se rendre intéressante? On s'est dit, écoudon, on va leur montrer qu'on ne fait pas juste des crêpes au sirop d'érable. Donc,
ouais.
On s'est mis en tête de faire un saumon laqué au sirop d'érable. On a fait un
gravlax au sirop d'érable. On a fait une salade de boudin blanc et de noix caramélisées, de pacanes caramélisées au sirop d'érable. On a fait un porc au sirop d'érable.
Et des gâteaux.
Quand même des quatre-quarts, des petits quatre-quarts au sucre d'érable.
C'est surréaliste de vous entendre parler de sirop d'érable, toutes les deux comme ça. C'est complètement improbable, vous le savez, ça.
Oui, mais c'est pas grave, on aime ça de même.
Alors, tentons une expérience, une performance culinaire, tiens. Je vous dis sirop d'érable et chacun donne une idée d'association avec le sirop d'érable. Qu'est-ce qu'on peut faire comme recette autour du sirop d'érable? J'improvise complètement, hein, je vous préviens.
Ben, le saumon.
Comment on fait?
Oh, on prend le saumon,
oui.
On fait une petite...
On fait
une réduction de sirop d'érable avec un peu d'eau, avec un peu d'ail, avec un peu de gingembre.
Oui.
On fait réduire, on laque, on met au four, on mange.
Très bien. Christine Brouillet.
Grave lax de sirop d'érable.
Alors, vous pouvez applaudir, oui, allez-y, je vous en prie.
Saumon cru, deux cuillères à soupe de sel, deux cuillères de sucre d'érable, de sirop d'érable. Vous mettez des baies de genièvre, vous repliez le saumon, vous arrosez de gin, surtout, ayez la main lourde.
Avec modération, je vous en prie, au moment des problèmes. Avec modération. J'en bafouille. Il ne faut pas vous inviter en dehors
si
de mon roman. Moi.
Et donc, ça se conserve pendant une semaine sans problème. On mange ça sur des petites tartines avec la fameuse crème aux gruyères suisses. Et c'est génial.
C'est léger tout ça, c'est parfait.
C'est léger, oui.
Parfait pour la ligne. Alors moi, je vais dire les pop-corn au sirop d'érable. C'est bon ça, les pop-corn.
Moi, j'aime bien quand le sirop est utilisé pour le salé, pas seulement pour le sucré. Donc, les vinaigrettes au sirop d'érable, on en avait parlé deux.
Ça, c'est
mais c'est formidable, les vinaigrettes au sirop d'érable, la mayonnaise avec du sirop d'érable, des choses pour accompagner salé. C'est bien de faire des desserts, mais pas que des desserts.
Jérémy Daniel, vous aimez le sirop d'érable, vous?
Bien sûr, ça coule dans nos veines. C'est une évidence.
On n'a pas de sang, nous.
Mais non, c'est ça.
Avez-vous essayé un jour d'introduire le sirop d'érable comme un personnage de l'un de vos romans? Ou en tout cas, comme un ingrédient, on va dire, de l'un de vos romans?
Non. Franchement, là, non.
Non, ça ferait un personnage...
On en mange, là, mais on en rêve pas.
Non, ça ferait un personnage bien collant, bien sirupeux.
On n'en veut pas de ça.
On veut pas ça.
Bon, que du saumon, pas de viande avec le sirop.
Oui, bien sûr. Le porc est vraiment l'honneur au Québec. On peut faire tout avec du sirop d'érable. On peut aller dans la cuisine asiatique, remplacer tout ce qui est sucre. Miel, en fait, c'est pas compliqué. Quand vous avez une recette où on vous donne des choses sucrées avec du sucre, vous rajoutez, vous mettez par du sirop d'érable ou du sucre d'érable à la place.
Essayez le sirop d'érable.
Voilà, et c'est délicieux.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir fait cette petite escale dans la librairie francophone. Ce petit clin d'œil. Vous avez joué le jeu, c'est magnifique parce qu'on n'a pas parlé de vos livres et vous êtes là comme ça pour l'ambiance du salon parce que c'est ça l'ambiance. Vous pouvez les applaudir. Marie Laberge, Christine Brouillet, grande auteure, très généreuse. Et on a enfin parlé de sirop d'érable. J'ai jamais osé. J'ai dit ça fait cliché à fond. Mais voilà.
On l'a fait à fond.
On l'a fait à fond. Merci. Christine Brouillet, votre dernier roman en date, Vrai ou Faux, est publié aux éditions Druide. Et vous, Marie Laberge, vous publierez Le Poids des Ombres la semaine prochaine chez Stock. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de la saison. Merci à vous. Bon salon.
Merci.
Et bonjour Louis-Philippe d'Alembert.
Bonjour.
Vous aimez le sirop d'érable ?
Oui.
Oui, vous avez intérêt ici. Là, vous êtes cerné. Vous publiez Avant que les ombres s'effacent chez Sabine Vespizer. Vous racontez la vie de Ruben, un médecin juif polonais immigré en Allemagne avant la guerre, qui devra fuir ce nouveau pays pour arriver en France, puis en Haïti. Car, il faut le savoir, on ne le sait pas forcément, Haïti a accueilli sur son territoire tous les juifs persécutés qui souhaitaient l'asile.
Oui, ça a été décidé en 1939. Il y avait eu un décret-loi in absentia. Donc Haïti avait proposé de donner la citoyenneté haïtienne à tous les juifs qui le souhaitaient. Ça a été déjà proposé dès 1938. Haïti avait proposé d'accueillir 50 000 juifs et l'idée avait été combattue par les États-Unis d'Amérique qui ne voulaient pas qu'il y ait si près de ses côtes autant de réfugiés. Et ils craignaient à l'époque que parmi les réfugiés, il y ait des espions du service de renseignement de l'armée allemande. Mmh. Donc en 1939, Haïti a pris ce décret-loi et il y a eu pas mal de gens qui ont pu faire le déplacement.
Et alors vous démontrez que la naissance est un fait du hasard. Et l'exil, la migration, c'est donc finalement un acte de survie qui préfigure une nouvelle naissance ?
Oui, tout à fait, parce que lui, au départ, il est né, le personnage Ruben Schwarzberg, il est né à Rutsch, en Pologne. Donc, de la Pologne, il va passer en Allemagne. Mmh. Et il n'y avait pas vraiment de lien avec Haïti, sinon un livre qui avait été écrit par un médecin intellectuel haïtien de l'égalité des races humaines en 1885. Et ce livre-là, il l'a écrit en réponse à Gobineau, le Français, qui avait lui écrit l'essai sur l'inégalité des races humaines. Donc, son oncle étant à Paris, découvre ce livre et le ramène chez lui. Ouais. Et toute la famille a appris le français dans ce livre.
Voilà, et vous racontez comme ça ces voyages de l'exil avec ces juifs qui échouent là où c'est possible. Il y a un épisode terrible, le paquebot Saint-Louis affrété pour transporter vers Cuba un millier de demandeurs d'asile. Mais ça ne se passe pas du tout comme prévu.
Ça ne se passe pas comme prévu parce que Cuba n'en veut pas et les États-Unis n'en veulent pas. Le Canada non plus, malheureusement, n'en veut pas. Et finalement, ils sont obligés de revenir en Europe. Et puis, en cours de route, tous ces réfugiés, c'est un fait historique que je reprends dans le roman. Et puis, ces réfugiés vont être répartis dans plusieurs pays d'Europe, dont la France.
Et la Belgique. C'est la Belgique qui lance un appel international.
La Belgique qui lance cet appel, les Pays-Bas et puis l'Angleterre. Et puis, la France va recueillir autour de 125 personnes, parmi lesquelles ce personnage de Ruben Schwarzberg, qui à Paris va découvrir la petite communauté haïtienne.
Voilà, et là, il est troublé, il est bouleversé par la communauté haïtienne, parce que les Haïtiens l'adoptent carrément, et lui disent « Mais tu sais qu'il y a un décret de loi. Si tu veux devenir haïtien et si tu veux fuir ce pays parce que tu vas être déporté, c'est possible. »
Oui, c'est ce qui s'est passé. Donc, mais avant, il a fallu quand même qu'il fasse un certain nombre de choses. Il a fallu qu'il apprenne à boire le rhum. Ouais. Il n'y a pas que le sirop d'érable. Il a fallu aussi qu'il apprenne à danser. Ouais. Parce que comme il était un côté un peu allemand, donc il était un petit peu raide. Donc, il a eu quand même des haïtiennes pour l'initier, notamment une femme qui était beaucoup plus âgée que lui, qui l'a un petit peu dégourdi. Et puis, à partir de là, la cuisine haïtienne. Et puis là, il était apte à devenir haïtien.
C'est-à-dire que vous glissez de l'humour. C'est très dramatique, finalement. Mais il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'humour dans ce roman, c'est assez étonnant. Oui. Et il écrira à sa famille à ce moment-là, quand il est là-bas et qu'il côtoie les Haïtiens, et il dit « À un moment où la peur de l'autre était la norme, il l'avait convié à s'installer dans leur pays, à parcourir à leur côté un bout de chemin sur la grande route de la vie. Ils n'avaient pas grand-chose, ils le savaient, mais ce peu, ce rien même, ils étaient prêts à le partager avec d'autres. »
Oui, ça c'est toute l'histoire d'Haïti, c'est-à-dire que dès le départ, Haïti a toujours été un pays solidaire. Malheureusement, aujourd'hui, on connaît Haïti qu'à travers les mêmes stéréotypes, mais Haïti a aussi, par la suite, dans son histoire, bénéficié de la solidarité, de la générosité des autres. D'ailleurs, l'histoire va commencer vraiment en 2010, après le tremblement de terre, où le deuxième pays le plus important en contingent et en secouristes, en médecins, c'est Israël qui va envoyer des gens aider Haïti. Donc, et c'est là que...
En souvenir
de cette période-là. Et c'est là que lui, il va rencontrer une petite cousine. Il va lui raconter son histoire.
Ouais, Déborah, une certaine Déborah. On en a une dans l'émission, mais c'est une autre Déborah. Deux libraires ont lu votre roman, Louis-Philippe d'Alembert. La France et le Canada, on commence par qui ?
Par le Canada, qui est plus proche de nous.
Oui, Jérémy Laniel, allez-y.
Oui, on empoigne le bouquin et on roule des yeux, on se dit un autre sempiternel bouquin sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est exactement à ce moment-là qu'on ignore ou qu'on sous-estime l'intelligence de Louis-Philippe d'Alembert, parce qu'il est brillant, ce gars. Hein? Il nous livre un récit d'exil sous fond de nazisme, telle une saga rocambolesque teintée d'humour dans laquelle il ne s'interdit absolument rien. Vraiment, chapeau.
Merci beaucoup.
Et pourtant, je vais tempérer Louis-Philippe d'Alembert, même si j'adore ce que vous faites avec moi-même. Grégoire, dans un instant. Mais c'est vrai qu'on en aurait aimé plus sur cette histoire d'Haïti, sur ce décret de loi. Parce que vous racontez une histoire, il a raison, Jérémy, finalement. Malheureusement, toutes ces histoires de familles juives déportées, il y en a plein les bibliothèques, avec d'autres contextes, hein, évidemment. Mais ce sont des drames à chaque fois. Et vous vous appuyez sur cette famille alors que vous auriez pu faire un livre encore plus flamboyant sur l'histoire et le rôle d'Haïti avec la déclaration de guerre aussi au Troisième Reich. Il faut savoir que le président de l'époque déclare la guerre à Hitler.
Oui,
mais on n'en sait pas plus.
Mais moi, je ne voulais pas non plus ça. C'est-à-dire, je ne voulais pas faire un énième roman, comme disait le libraire québécois tout à l'heure, sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que des livres comme ça, il y en a une flopée.
Vous n'êtes pas loin, si je peux me permettre.
Donc, moi, je voulais faire quelque chose, d'une part, montrer un peu le rôle d'Haïti, mais oser aussi l'humour dans une histoire aussi grave.
D'accord. Grégoire, pour la France, qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense exactement comme tout le monde. Pour le coup, c'est plutôt facile.
Il se mouille pas, ouais. Allez-y.
Non, j'exagère. Non, moi, je me suis vraiment fait embarquer par ce livre. Mais là où je dis, je pense comme tout le monde, c'est-à-dire que je suis à la fois d'accord. C'est vrai qu'on en a lu beaucoup des histoires comme ça. Ça a été traité dans d'autres romans. Mais vraiment, ce livre, il tient avec le style qui est vraiment un feu d'artifice, vraiment littéraire. C'est truculent, c'est poétique. Vraiment, ce style, il porte littéralement le récit. Et moi, j'ai passé un excellent moment de lecture, même si, effectivement, on a déjà vu ce type de projet.
Très bien. Bon, voilà, vous séduisez nos libraires. Le Philippe d'Alembert, peut-être une suite ?
Non, je ne sais pas, non. Mais pour une fois, je suis très content parce que Grégoire a dit quelque chose de positif.
Ah, pourquoi ? D'habitude, c'est pas le cas.
Non, parce que je suis souvent à l'émission et Grégoire a toujours la dent très dure.
Ah oui, c'est le pire avec Jérémy Laniel, on y reviendra tout à l'heure, vous inquiétez pas. Comme vous le dites dans le roman Louis-Philippe d'Alembert, Haïti est la mère de toutes les libertés. C'est-à-dire que malgré le dénuement, malgré les catastrophes, il y aura toujours une forme de protection, et notamment une forme de protection pour l'étranger.
Oui, parce que l'histoire d'Haïti est partie de là. C'est-à-dire que c'est la plus grande révolution du 19e siècle, mais c'est la plus grande révolution qu'on va faire aussi avec un certain nombre de gens qui sont venus d'ailleurs, hein, avec des Polonais qui étaient embarqués dans l'armée de Napoléon, et puis arrivés sur place, eh bien, ces Polonais ont décidé de rester et de donner un coup de main aux insurgés. Donc l'histoire d'Haïti, c'est fait de gens qui viennent de partout, et puis par exemple, justement, on est en train de parler du Canada et du Québec, et la communauté juive de Québec pendant le tremblement de terre a été très très solidaire avec Haïti. Ils ont financé une tente et hôpital et tout, donc le Canada en général. Donc l'histoire d'Haïti est faite de choses qu'on reçoit, mais de choses qu'on donne aussi, mais ça on l'oublie souvent.
Et de personnages multiples. D'origine multiple.
D'origine multiple, de tout. Quoi. Et d'ailleurs, dans le roman, le docteur Schwarzberg va finir par devenir haïtien à partir d'un baptême vaudou, parce qu'il faut qu'il devienne haïtien.
Et puis, il va créer une famille. C'est-à-dire qu'il devient haïtien à part entière et il génère une nouvelle famille avec des descendances et donc avec, comme ça, une filiation haïtienne.
Avec une filiation, mais... qui va durer 4 générations, au moment où il commence à raconter l'histoire.
Alors, c'est une histoire vraie. Hein. Vous êtes inspiré, en tout cas, d'un vrai
beaucoup,
médecin.
Il y a beaucoup de personnages vrais autour. Et puis, donc, j'ai créé quand même un certain nombre de personnages fictifs.
Bien sûr. Merci beaucoup, Louis-Philippe d'Alembert. Merci d'être revenu dans la librairie francophone. Vous pouvez l'applaudir, Louis-Philippe d'Alembert, avant que les ombres s'effacent, c'est paru aux éditions Sabine Vespizer. Merci Louis-Philippe. À la librairie francophone avec Marc Lévy, Louis Hamelin, Christine Brouillet, Marie Laberge et les 30 ans de la joie de lire. Il y aura un son du monde spécial exceptionnellement à la fin de l'émission pour vous faire découvrir une revue de qualité suisse ou une revue suisse de qualité, c'est comme vous voulez. C'est l'heure du tube francophone avec un tube suisse aujourd'hui à l'occasion du Salon du Livre de Genève. Voici le chanteur Polar et son brasier.
Paysage lunaire, les branches, les troncs se confondent à leurs ombres. Le soleil n'a plus d'obstacles, la gorge me brûle. Nature, tu es belle, figée comme à Pompéi. Nature, tu renaîtras de tes cendres. Les arbres éclateront, ciel grandiose et fantastique. Telles les collines d'Hiroshima, mon amour. Et quoi que l'on fasse, on se place sous un ciel déchiré. La nature s'embrase, je suis au cœur du brasier et je brûle. Sous un ciel déchiré, la nature s'embrase. Je suis au cœur du brasier et je brûle, et je brûle, et je brûle pour toi, et je brûle.
Plaisir de réentendre le chanteur Polar avec ce titre qui avait eu un beau succès en 2006, Le Brasier, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. La suite des coups de gueule et des coups de cœur avec nos libraires. Jérémy Laniel pour le Canada, vous êtes le plus terrifiant des libraires. Grégoire Courtois est un bisounours à côté de vous. Un coup de cœur pour changer, Jérémy?
Mais avec le Québec à l'honneur, en plein cœur du Salon de Genève, je ne pouvais pas y aller d'un coup de cœur, d'un coup de gueule. Alors, allons-y avec un coup de...
Allez-y.
Un coup de cœur pour souligner l'excellente production poétique québécoise. Vous connaissez mon amour de la poésie, Emmanuel.
Oui, c'est vrai.
J'aimerais parler du quatrième recueil d'Annie Lafleur, publié au Cartanier. Ça s'intitule « Bec de lièvre ». C'est un recueil rempli d'une inquiétante étrangeté. Il y a des jeux d'enfants aux contraintes assez vieillies, où le corps n'est jamais bien loin, toujours sensuel, parfois sexuel. Un petit extrait pour une mise en bouche. Ton prénom est une bouche. Sans yeux, il bave. Tu as ce qui empire, petit clou de finition, barrage retenu par l'épaule. Les eaux affinent au fond du lac. Il manque ton corps. Bien, pour le reste, il faudrait s'y plonger complètement.
Ça va vous faire plaisir hein, aujourd'hui, Jérémy. Hein?
Ça m'arrive. Ah, ouais, ça m'arrive.
Bec de lièvre aux éditions Le Cartanier. Merci, Jérémy. Grégoire, en France, coup de gueule ou coup de cœur?
Ah, écoutez, c'est un coup de gueule, on va dire, parce que je suis très inquiet. Là, ça fait à peu près 15 jours que Michel Onfray n'a pas sorti de nouveau livre. Et du coup, c'est très inquiétant en boutique. Hein, on ne sait pas ce qu'il est arrivé. Parce que bon, voilà, Michel Onfray a un rythme de publication, on peut dire, carrément inhumain. C'est plus de 10 livres par an, toutes éditions confondues. Et je vous épargne les préfaces. Donc voilà, moi, je suis assez inquiet pour un philosophe quand même comme ça, qui est censé se réclamer philosophe. D'après moi, il est complètement tombé de sa tour d'ivoire. Et là, il est carrément devenu un professionnel du commentaire. Et c'est carrément un éditorialiste. N'en parlons plus.
Très bien. Merci beaucoup, Grégoire. Hein. On vous envoie ces messages, hein, au cas où.
La librairie francophone, au Salon du Livre et de la Presse de Genève.
Bonjour Tom Tirabosco.
Bonjour.
Bonjour Francine Boucher.
Bonjour.
On célèbre cette année sur ce Salon du Livre de Genève les 30 ans de la joie de lire, maison d'édition qui a beaucoup œuvré pour favoriser la lecture du jeune public et qui a une belle réputation dans toute la francophonie. C'était à l'origine une librairie, Francine, la joie de lire.
Oui, une librairie déjà destinée à la jeunesse qui a été montée en 1937, donc je n'y suis pour rien, mais vos auditeurs ne peuvent pas le voir. Et en fait, j'ai repris en 81 cette librairie, sachant que j'allais faire autre chose, je ne savais pas encore très bien quoi, et un jour c'était de l'édition, en 87 c'était évident que c'était ça que j'allais faire.
Alors chaque année vous publiez 40 ouvrages, vos livres jeunesse ont toujours une portée humaniste, un côté très littéraire aussi, la qualité du texte importe autant que l'illustration.
Mais plus que l'illustration.
Ah, plus.
Désolé, Tom.
Oui, mais, il va être ravi, Tom Tirabosco.
C'est vrai. Donc, c'est vraiment d'abord la qualité du texte et qui importe. Mais ce qui est important, c'est la richesse des mots. Enfin, les enfants s'expriment avec des mots, comme nous, et il faut les respecter. Et par conséquent, lorsqu'on les écrit, on doit encore plus les respecter. Voilà, c'est mon point de vue.
On va avoir le point de vue, justement, de la Belgique avec Annick Dor, qui connaît très bien votre maison d'édition. Annick ?
Tout à fait. Alors, c'est vrai que d'abord, moi, j'aime bien l'idée, justement, d'une libraire qui devient éditrice. Elle connaît forcément les goûts du public. Et alors, je ne sais pas si c'est ça qui donne la ligne éditoriale de la joie de lire, la qualité de la ligne éditoriale, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que votre marque de fabrique, ce sont des livres qui sortent de l'ordinaire, d'une part, et puis avec d'un livre à l'autre, souvent des esthétiques quand même très très différentes, donc c'est très varié. Alors, en ce qui me concerne, dans votre catalogue, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses que j'aime vraiment bien, mais j'ai vraiment un petit faible pour La Vallée de la Jeunesse de Gênes. Il avait été l'invité de l'émission en 2007, J'avais vraiment découvert son univers incroyablement touchant, et c'est vraiment un livre qui est resté gravé dans ma mémoire, donc voilà. Très bon souvenir de La Vallée de la Jeunesse.
Belle mémoire, Annick, 2007, oui, avec Eugène, oui. Je me souviens aussi. Les bibliothèques, Francine Boucher, les libraires portent beaucoup vos productions. C'est un réseau essentiel pour la promotion de la lecture.
Eh bien, bien sûr, si on n'a pas de libraire, si on n'a pas de bibliothèque, c'est un peu la fin du monde.
Ouais.
Bien sûr que le net a repris un certain flambeau, mais c'est quand même assez anecdotique par rapport à ce travail de fond des libraires et des bibliothécaires qui sont vraiment des médiateurs, des vrais médiateurs pour nous. Sans eux, nous sommes perdus.
Vous dites une chose intéressante à propos du numérique. Vous expliquez que selon vous, les jeunes préfèrent jouer ou regarder des vidéos sur les tablettes que de lire.
Il me semble, enfin moi je ne suis pas la reine des sondages et des statistiques, mais le livre demeure et demeurera à mon avis toujours. Et l'usage que font les jeunes de l'écran est très particulier. Et les jeunes, les adolescents jouent et ne lisent pas sur le net, ça c'est clair.
Tom Tirabosco, alors vous êtes un illustrateur suisse, auteur de BD, dessinateur de presse. Vous publiez La graine et le fruit avec Alexis Génie, donc une histoire qui explique l'idée de Dieu. On voit un grand-père qui fait pousser des arbres dans son jardin avec son petit-fils et qui lui montre que la graine ne ressemble pas à l'arbre. Ça commence comme ça. poursuivez.
Et oui, ça commence comme ça. Et moi, j'ai jamais pensé qu'un jour j'allais faire un livre sur Dieu. Ça a été l'aboutissement de la lecture de son livre qui s'appelait « Son visage et le tien », qui était un magnifique, une série de textes sur Dieu et sur la spiritualité. Et je lui ai dit, allons-y, je veux dire, pourquoi pas parler de Dieu aux enfants. Et après coup, je me suis dit, mince, ça va être compliqué. Et voilà, je pense m'en être plutôt bien sorti.
Alors, on va voir avec Laura Sanchez, en Suisse, sur ce plateau à Genève, au Salon du Livre, qui a lu justement La Graine et le Fruit. Qu'en pensez-vous, Laura ?
Eh bien, moi, j'aime beaucoup cet album et aussi son propos. Alors, ça va être un peu paradoxal, ce que je vais dire, mais le travail de dessin en plan fixe sur une maison et un jardin, c'est très fin. On gagne en intensité et en détail au fil des pages. Mais moi, j'ai un problème, c'est avec le terme « Dieu ». Avec ce D majuscule, il me semble qu'on aurait gagné en universalité avec un terme moins connoté, parce qu'en fait, vous parlez de spiritualité et du mystère de la vie, n'est-ce pas ?
Tom Tirabosco.
Bon, c'est pas moi qui ai écrit le texte.
Oui, mais bon, moi, j'ai été obligé de cautionner
les dessins. Mais peut-être Francine peut répondre par rapport à ça.
J'ai assez envie de répondre à ça, parce qu'au fond, votre point de vue, c'est un point de vue très français dans une laïcité très claire. Vous voyez,
oui, c'est notre libraire suisse, Laura.
Oui, mais disons qu'on est quand même un peu très influencé par ce voisin français. Et je ne vois pas pourquoi, tout à coup, Dieu ne serait pas Dieu. Et je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'ai présenté ce livre à mes représentants français, eh bien, il y avait beaucoup d'admiration pour le livre. Et puis, en plus, c'était Alexis Génie. Ils se sont dit, on va faire une bonne affaire, puisque c'est un ancien prix Goncourt. Et puis, la responsable des représentants a dit, mais attention, il y a Dieu. Et là, je me suis fâchée. Vraiment. Parce que j'ai dit, mais de quoi parle-t-on ? Ça veut dire que vous ne pouvez plus diffuser des livres philosophiques, par exemple. Donc, je trouve qu'on est devenu dans une espèce de politiquement correct, moi, qui me dérange énormément. Et j'aime beaucoup...
Mais Francine, oui. Si je peux me permettre. C'est vrai que l'histoire, quand même, du petit-fils qui grandit avec les arbres, avec le dernier dessin de Tom, d'ailleurs, où on voit le petit-fils devenu adulte, qui embrasse sa compagne dans le jardin avec l'oiseau, parce qu'il y a toujours un oiseau en amorce. En bas à droite, il y a un oiseau qui change à chaque page. Et puis à la fin, sur le dernier dessin, cet oiseau, à la place de l'oiseau, on a un œuf. Donc c'est vrai que c'est une histoire très catholique conservateur.
Allons donc, mais c'est absurde
si
de dire ça.
Si je peux vous provoquer un peu, non ?
Non, mais ça ne me provoque même pas.
Non.
Ça me désole.
Ah bon,
c'est pas la même chose. Donc non, je crois que ça me désole. Mais bon, je pense qu'il y a toujours... c'est un pari de faire un livre comme ça, dans ce contexte tellement hostile. Mais je pense qu'il y a beaucoup de grands-parents qui aimeraient transmettre un certain nombre de choses à ce sujet et qui n'osent même plus le faire.
Mais ça aurait pu être universel. Tom Tirabosco, votre
avis. Qu'est-ce que ça veut dire être universel ?
Si on n'avait pas mis la religion là-dedans, peut-être. Elle a peut-être raison, Laura. J'en sais rien. Moi, je fais l'avocat du diable. Allez-y, Tom.
Mais moi, ça ne m'a pas du tout gêné. Et en fait, moi, j'ai tout de suite pensé à comment mettre cette distance par rapport à cette question de Dieu. Et dans mon travail de dessin, j'ai essayé justement d'être comme ça dans un recul par rapport au texte et effectivement d'être le moins possible, je dirais, illustratif par rapport à ce qui était raconté. Mais voilà, moi je pense que je rejoins un peu Francine. Moi j'ai grandi effectivement dans cette religion catholique. Je me sens pas particulièrement croyant ou c'est pas que je nourris une foi ou que j'ai une pratique religieuse.
Mais ça fait partie de vous.
Mais ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mes racines. Et je pense que ce livre, il exprime un peu ça.
Très bien. Merci beaucoup, Tom Tirabosco. Merci, Francine Boucher. Les éditions La Joie de Lire ont 30 ans. La Graine et le Fruit, réalisé avec Alexis Génie, vient de paraître. À noter aussi un autre livre qui m'a beaucoup plu, La Poya, de la fribourgeoise Fanny Dreyer, que j'ai par ici, là. Je vais le montrer au public. Voilà, il est là et il se déplie, regardez. Il se déplie intégralement, voilà, comme ça. C'est comme un grand dépliant. Merci beaucoup à vous de vous faire donc une opinion sur ce livre de Tom Tirabosco et d'Alexis Génie. On conclut avec une revue suisse. On voulait vraiment terminer avec un coup de projecteur. La revue 7, qui présente son tout nouveau numéro en avant-première ici au Salon du Livre. C'est une revue distribuée dans toute la francophonie, Canada inclus, depuis cette semaine. Nous avons relevé un article sur les derniers clubs de blues dans le Mississippi. Bonjour Patrick Valélian.
Bonjour.
C'est dans ces clubs apparus à la fin du 19e siècle, dans la foulée de l'émancipation des esclaves, que les pionniers du blues ont posé les fondations de ce courant musical.
Totalement. Et ce qui est amusant finalement à notre époque où on aime la musique, c'est que ces clubs sont en train de disparaître, simplement parce que les Noirs qui sont émancipés, qui quittent l'esclavage, hein, grâce notamment à la guerre de sécession, maintenant quittent ces régions-là, quittent le Mississippi et font carrière, notamment à New York ou dans les grandes villes, et même certains deviennent présidents des États-Unis.
Oui, c'est ça. Alors, il y a la relève, hein, vous expliquez dans l'article, vous évoquez Kristen Ingram, un bluesman du Mississippi qui joue dans l'un des derniers clubs, qui s'appelle le Ground Zero, et qui appartient à Morgan Freeman, l'acteur. Alors, on a retrouvé le son de ce club avec une prestation de ce fameux artiste surnommé Kingfish, et c'est le son du monde de la semaine en musique, donc avec un extrait de l'article que vous allez lire dans un instant, Patrick Vallely.
Kristen dépasse allègrement le quintal. Sur scène, pourtant, il défie la gravité. Sa main droite amorce le décollage et pilote. La gauche se libère et plane. Oubliez la doux obèse. Kingfish est un poisson volant. Muddy Waters, qui a depuis longtemps rejoint le monde du silence, sourit peut-être en l'entendant ressusciter Manning Boy. I am a man, grince la voix du gamin et la salle, quoique Claire Sommet lui emboîte le pas et s'envole. Yeah.
Et les autres petits clubs du Mississippi, les clubs de blues, n'auront peut-être pas la même chance que Guanzeo. Ouvert en 2001 par Morgan Freeman, tout le monde le sait parce que ce sont des clubs qui sont voués à disparaître. Il n'y a pas de relève, justement. Personne ne va les reprendre.
Totalement. C'est des endroits qui sont assez insalubres, à vrai dire, hein, qu'ont visité Olivier Saretta, Roxane Guichard et Mathieu Chiara, qui sont les auteurs de ce reportage. Et simplement, il y a plus le marché, quoi, parce qu'aujourd'hui, on consomme la musique autrement. Mmh. Et ces endroits qui sont mythologiques, quand même, pour la musique jazz, pour la musique noire et la musique, quand même, qui a donné le rock'n'roll plus tard, qui est notre musique moderne, sont en train de disparaître parce qu'il n'y a plus personne, en fait, simplement, et plus personne pour les reprendre, comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc on est distribué un peu partout en francophonie. Et ça, c'est plutôt une fierté pour une revue suisse, quoi.
La revue 7, donc à découvrir en librairie avec ses longs articles. C'est appréciable, les longs articles et des reportages photos aussi consacrés donc aux États-Unis pour ce numéro 17. Merci beaucoup, Patrick.
Merci.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, la découverte francophone avec un extrait en avant-première du premier album de Raphaël Dervez dans la librairie francophone.
Je n'ai plus d'envie, perdu dans la nuit. Je crève trop, et chaque soir c'est la même chose. Tu t'adonnes à ces mondes et merveilles. Parfois j'attends et parfois j'ose, mais je ne trouve jamais le sommeil. J'ai disparu en été. J'essaie de vaincre ma timidité. J'ai survécu en été. Thank you.
Raphaël Dervaise avec Rêve, que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci au public de Genève, très nombreux présents ici. Un grand merci à vous. On est ravis de vous retrouver ici au Salon du Livre de Genève chaque année. Merci à la RTS pour les moyens techniques, à la réalisation ici à Genève, Céline Hila avec Gilles Ozaman, à la rédaction Jean-Philippe Véret avec Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, Laure Grand-Besançon et Alice Archimbault en France, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, Serge Marquis, un entretien-reportage à Marseille au MUCEM autour des déchets du monde et l'auteur et réalisateur Patrice Lecomte. Bonne semaine, bon week-end à vous. Merci, salut.